Cécile Lafont, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Campus Lille. Vous
Merci.
Êtes la directrice du musée départemental de Flandre situé à Cassel et vous êtes commissaire de l'exposition qui aura lieu donc de mai à fin septembre concernant deux artistes et complices, Bruegel et Van Balen. Alors, avant de reparler un peu de ce magnifique musée, pourquoi ce titre « Artiste et complice » ?
Alors, tout d'abord, je voudrais juste préciser que je suis co-commissaire de cette expo. J'ai travaillé en partenariat avec Yael Sam-Salazar, historienne de l'art et avec qui je partage le commissariat.
Avec laquelle vous avez travaillé pendant 3 années pour préparer cette expo.
C'est ça, exactement. Donc, c'est important de le en préambule. Et c'est vrai que le titre « Artiste et complice » signifie beaucoup. Il signifie qu'ils sont bien sûr Bruegel et Van Balen collaborateurs de travail. L'un va faire les paysages, les natures mortes, donc c'est Jan Bruegel l'Ancien, et l'autre réalisera les personnages, c'est Hendrik Van Balen. Et qu'en plus de cette collaboration de travail, qui va en plus se durer dans le temps, près de 25 ans, ils vont aussi être amis. Et donc, d'où le mot « complice » que l'on a souhaité pour le sous-titre de cette exposition, parce qu'ils vont être de grands amis pendant plusieurs décennies.
Alors moi, j'avais vu aussi dans le titre le fait que Van Balen n'était plus connu. On ne le mettait plus en avant. Donc, on aurait pu imaginer que c'était un de ses collaborateurs dans son atelier, quoi.
Voilà. Oui, alors qu'en réalité, les deux artistes, Bruegel et Van Balen, avaient une notoriété équivalente.
Ils sont artistes l'un comme l'autre.
Exactement. Il n'y a pas de subordonné. Ils avaient une notoriété équivalente à leur époque.
Oui, ils étaient tous deux d'ailleurs amis de Rubens. Ils étaient donc habitants Anvers.
C'est ça.
Et ils étaient dans l'art flamand. Au top niveau, quoi. Et ce musée de Flandre est vraiment un musée unique dédié à l'art flamand.
Oui, c'est vrai que nous sommes le seul musée dédié entièrement à la culture flamande en France comme en Belgique.
C'est un musée, d'ailleurs, qui a reçu le label d'intérêt national une fois de plus, puisque ça sera le cinquième par le ministère de la Culture.
Oui, alors c'est pas le musée qui a reçu le label, c'est l'exposition Bruegel et Van Balen qui a reçu le label comme les 4 autres précédentes expositions. En effet, depuis 2015, c'est donc la 5e fois que le musée reçoit le label d'exposition d'intérêt national qui est décerné par le ministère de la Culture.
Alors, 2025, c'est le 400e anniversaire de la mort de Jan Bruegel, l'Ancien. Le dernier fils du grand Peter Bruegel, l'Ancien.
C'est ça.
Et là, il n'y a pas d'âge pour qu'on puisse les distinguer, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en effet, Peter Bruegel, l'Ancien, qui est le patriarche fonde la dynastie... c'est un petit peu un raccourci ce que je fais là. Mais en tout cas, c'est le premier à porter le nom Bruegel dans la famille. Il n'y a pas de H à son nom. Alors qu'à partir de ses enfants, donc Peter Bruegel le jeune ou Jan Bruegel l'Ancien, porteront chacun un H dans leur nom de famille.
Alors
là, c'est des questions de signature, en fait.
Ah oui, c'est ça, suppose que vous avez dû travailler ardemment pour bien l'identifier.
Tout simplement, Peter Bruegel l'Ancien signe sans H, alors que, sans doute pour le distinguer de son père, Jan Bruegel l'Ancien et Peter Bruegel le Jeune, eux signent avec un H.
Alors, vous l'avez signalé déjà, Jan Bruegel peignait surtout des paysages, des natures mortes et les fleurs. Et par contre, au départ, il a suivi un peu la lignée du père. Mais il a vite trouvé sa propre voie. Il faut savoir donc que son père est mort un an après sa naissance.
C'est ça, donc ils ne vont pas vraiment se connaître. Et c'est surtout pas Peter Bruegel l'Ancien qui va s'occuper de son apprentissage.
Et c'est surtout la grand-mère qui va aussi initier un peu Jan Bruegel à la peinture.
C'est Mekken Verhulst, donc la grand-mère, qui est aussi la femme de Peter Cook d'Alost. Alors, Peter Cook d'Alost, c'est un autre très grand nom de la peinture flamande, donc qui était le grand-père de Jan Brueghel. Mekken Verhulst, elle était considérée comme une grande aquarelliste. Donc, elle va forcément participer à l'apprentissage de Jan Brueghel l'Ancien.
Alors, Van Balen, je le disais tout à l'heure, artiste oublié, mais une des caractéristiques justement du musée de Cassel, du musée des Flandres, c'est de faire refaire vivre ces artistes. Et à la fois, Brueghel comme Van Balen, ben, ce sont des gens assez éloignés, je dirais, de la violence, du réalisme qu'on peut dire expressif. Je crois que l'un comme l'autre sont plus dans la délicatesse. Brueghel, d'ailleurs, a été appelé Brueghel de velours.
Oui, alors, ce surnom, Brueghel de velours, ça tend pas vraiment à la délicatesse de sa peinture, ça tend plutôt au velouté de ses couleurs. Vous savez, Brueghel, il
va surtout... Sa palette chatoyante.
Exactement, chatoyante, éclatante, lumineuse. Enfin, il y a beaucoup de qualificatifs pour la décrire, cette palette. Mais Jan Brueghel, son support de prédilection, c'est le cuivre. Le bois et le cuivre, mais surtout le cuivre. Et donc le cuivre, ça permet justement un éclat particulier aux couleurs, puisque c'est une surface qui est extrêmement brillante, extrêmement lisse également. Donc ça va lui permettre aussi de réaliser un certain nombre de glacis et qui vont faire sa renommée. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Brueghel de velours.
D'accord. Alors, justement, vous faites l'allusion donc aux deux supports, le bois et le cuivre. Alors, le cuivre, à la limite, lui, va pas subir de déformation avec le temps, mais le bois peut être susceptible de s'incurver. Et ça, je crois qu'il y a des traces dans l'exposition de tableaux comme ça qui ont subi un peu mal le temps, si je puis dire.
Oui, c'est vrai que le bois, c'est le support sans doute le plus fragile parce que c'est une matière vivante, en fait, qui réagit très vite au changement de température et surtout d'hygrométrie. Donc le bois va se rétracter ou au contraire se dilater et parfois, et c'est le cas de deux panneaux qui sont dans l'exposition et qui appartiennent au musée des Beaux-Arts de Nice, les panneaux vont complètement se courber et ça va vraiment être assez impressionnant parce que la surface ne va plus du tout être plane, quoi. On va vraiment avoir une courbe importante.
Eh bien, avant d'aller plus loin dans le parcours de l'exposition, je vous propose, Cécile, une petite page musicale de la musique de l'époque, la musique baroque. Thank you. Bien, nous sommes toujours en compagnie de Cécile Lafont, la directrice du musée départemental de Flandre, qui va nous parler de cette magnifique exposition qui a lieu de mai à fin septembre à Cassel, dans un village reconnu comme un très beau village aimé des Français. Et puis, alors, nous allons bien sûr reparcourir cette exposition. Avant tout, ces œuvres, elles nous viennent d'un peu partout. Elles nous viennent des Pays-Bas, elles nous viennent d'Espagne, de Madrid, de Paris, et aussi de collections privées.
Oui, c'est ça, oui, vous avez raison. C'est aussi pour ça, hein, que ça a pris autant de temps. Vous avez mentionné au début que ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur le sujet, mais c'est 3 ans de recherche, mais c'est aussi 3 ans de négociation avec les différentes institutions prêteuses. Et donc parmi ces institutions, on a des musées, donc des grands musées comme le musée du Louvre ou le musée du Prado, par exemple, à Madrid, ou des plus petits musées. Hein. On travaille aussi avec le musée de La Rochelle, par exemple. On a aussi emprunté auprès d'églises, donc d'églises en Belgique, comme par exemple la cathédrale Saint-Sauveur à Bruges, ou encore des musées aussi belges comme le musée du 500 ou le musée M à Louvain. Et enfin, on travaille aussi avec des collectionneurs privés, vous avez raison, car il y a beaucoup d'œuvres, notamment de Jan Brueghel l'Ancien, qui sont entre des mains privées aujourd'hui.
On va revenir un peu sur la particularité de ces deux artistes. À la fois Brueghel, on dit qu'il est donc plus dans les paysages, les fleurs, les animaux, et Van Balen dans les personnages. Alors il faut savoir que dans certains tableaux, effectivement, donc Van Balen a contribué, à produire les personnages, mais que Brueghel a des fois fait que vraiment une très très petite partie du tableau.
Oui, vous faites bien de le dire, parce qu'en fait, l'un et l'autre, Brueghel comme Van Balen, sont tous les deux capables de peindre l'intégralité d'un tableau. Ils sont tous, même si leur spécialité est propre, ils sont quand même tous les deux capables de peindre et des personnages et des paysages. Donc parfois, leur collaboration, en effet, elle va se jouer uniquement sur un tout petit détail, une petite nature morte, par exemple en bas à droite ou en bas à gauche d'un tableau, parce que ce sera peut-être tout ça. Enfin, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément calculées et qui se faisaient par le hasard ou en tout cas par la complicité justement et la proximité géographique. Il ne faut pas oublier que les deux habitaient dans la même rue à Anvers, hein, et que probablement leur lien professionnel comme leur lien amical faisait qu'ils se voyaient souvent. Et donc, on peut imaginer que l'un rentrant dans l'atelier, voyant Van Balen en train de réaliser une composition, et Brueghel qui se dit « Oh bah tiens, ce serait intéressant de rajouter tel motif au premier plan ». Et donc, c'est comme ça que les choses se faisaient. Alors, pas systématiquement, évidemment. Parfois, leur travail faisait l'objet de commandes, et dans ces cas-là, le travail était plus organisé. Mais on sent aussi qu'il y avait quand même des fois des moments où de pur hasard, quoi.
Alors pourquoi dit-on que Hendrik Van Balen était un peintre à contre-courant ?
Alors on dit qu'il est un peintre à contre-courant parce que peut-être encore plus chez Van Balen que chez Brueghel, forcément là ça tient à leur spécialisation, Van Balen qui réalise plutôt des personnages, il va embrasser avec beaucoup moins de fougue le mouvement baroque qui explose avec la figure de Rubens notamment. Ils ont le même âge, hein, Brueghel, Van Balen et Rubens.
Ils sont nés à 5-6 ans de différence, hein, je crois.
Voilà, c'est ça exactement. Donc, et puis ils sont amis, ils se côtoient tous les jours, ils travaillent aussi ensemble. Ils se connaissent, ils partent par exemple en 1612, on sait qu'ils partent tous les trois, Brueghel, Rubens et Van Balen, en Hollande. Donc on a des traces dans les archives, donc ils s'appréciaient. Mais chez Van Balen, on sent qu'il adhère pas à tout ce théâtre, à tout ce drame, à tous ces éclairages artificiels et très marqués qui font la gloire de Rubens. Chez Van Balen, tout est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, avec des figures raffinées, comme vous l'avez dit, très délicates. Et surtout, il gomme le drame.
Il
le
veut...
drame dans les épisodes, parce que pourtant il utilise les mêmes sources que Rubens, hein, c'est-à-dire les métamorphoses d'Ovide, la Bible, et ce sont des, on le sait bien, que ce sont des sources historiques ou mythologiques qui sont remplies de drames, justement. Et ben, chez Van Balen, il arrive à gommer ce drame pour faire des choses très décoratives, finalement.
Il veut séduire l'œil et captiver le regard avec douceur.
C'est ça. Ça, c'est les mots d'Yaël, je crois, qui le dit, qui décrit très bien, en effet, la manière de Van Balen.
Alors, une particularité quand même entre les deux, comme ça, c'est... bonjour, Jan Brueghel, c'est la miniaturisation.
Hein, oui.
Je pense qu'on peut dire... Enfin, c'est peut-être un peu réduit, mais réducteur. Et Van Balen, quand même, lui, fait des grands formats.
Oui,
enfin,
oui,
je veux dire, une miniaturisation sur des petits formats, alors que Van Balen fait aussi du grand format.
Brueghel aussi fait des grands formats avec Rubens, hein, mais c'est vrai que dans l'exposition, en tout cas, on a mis l'accent sur son talent de miniaturiste. Vous avez raison de le souligner. On a sur certains formats, des petites plaques de cuivre ou des petits bois, on a l'impression qu'il peint juste avec quelques poils sur son pinceau, tellement c'est fin et tellement c'est détaillé. Il a pratiquement un regard d'ailleurs de scientifique quand il peint ses fleurs, par exemple. On a identifié précisément plus de 89, je crois, espèces végétales différentes dans les tableaux de Jan Brueghel l'Ancien, qui sont dans l'exposition uniquement. Donc, il était très, très méticuleux lorsqu'il travaillait. Ça aussi, on le sait, non seulement il était méticuleux parce qu'on reconnaît toutes les espèces végétales qu'il peint, mais on sait qu'il était méticuleux et qu'il prenait beaucoup de temps également parce que certaines commandes ont pris des années avant d'être terminées.
Il ne peignait les fleurs que quand elles étaient en éclosion.
Par exemple.
Et alors là, je voudrais citer cette petite anecdote. Vous savez, la lettre de Sido de Colette à son gendre, qui dit comme ça, « Je ne peux pas me déplacer parce que je veux voir mon cactus rose fleurir. » Et il faut savoir qu'un cactus rose, apparemment, suivant les certains climats, peut mettre jusqu'à 4 ans. Tous les 4 ans. Alors,
voilà.
Dites-moi si Jan Brueghel...
Il n'y a pas de cactus rose chez Brueghel, mais vous avez raison. C'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que dans certains bouquets de fleurs, en effet, il va faire cohabiter des fleurs qui ne poussent pas à la même époque. Et il va expliquer dans les lettres qu'il a réalisées, par exemple, avec son mécène. Vous savez, Federico Borromeo, l'archevêque de Milan,
oui.
C'est sans doute l'un des plus grands mécènes de Brueghel, jusqu'à Borromeo va lui commander de nombreux tableaux jusqu'à la mort de Brueghel en 1625. Et dans ses correspondances, dans ses courriers, Brueghel explique que s'il prend du temps, c'est aussi en effet parce qu'il attend que telle variété soit éclose pour qu'il puisse la peindre directement d'après nature. Donc, ça prenait pas 4 ans, mais ça pouvait prendre un certain nombre de mois.
Oui. Alors, quand vous parliez d'Italie, pourquoi le voyage en Italie a été décisif pour Brueghel?
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de voyage en Italie, et pour autant, il a été décisif, vous avez raison, et pour l'un, et pour Brueghel, et pour Van Balen. Parce que déjà, c'est un petit peu le passage obligé quand on a un artiste du Nord, venant du Nord, que d'aller faire ses gammes, si je puis dire, en Italie, d'aller se confronter aux sources antiques directement, mais aussi à la Renaissance italienne, aux peintres comme Michel-Ange, Raphaël. Et donc, Jan Brueghel va partir en Italie, il va y rester près de plus de 10 ans, 1589 jusqu'en 1596, donc presque 10 ans, vous voyez, 8 ans. Il va travailler en Italie, à Rome, à Naples, à Florence, et il va travailler pour plusieurs cardinaux italiens, dont Federico Borromeo, qui va devenir l'un de ses principaux mécènes. Et Hendrik Van Balen va réaliser le voyage en Italie. On a moins de traces de ce voyage en Italie Van Balen. On présume qu'il a été en Italie, tout simplement parce qu'à son retour à Anvers, il devient doyen de la guilde des romanistes. Et la guilde des romanistes, c'était une guilde, une corporation qui était quand même très restrictive, puisqu'elle était ouverte uniquement aux artistes ayant fait le voyage en Italie. Donc on peut imaginer que son doyen devait aussi forcément avoir fait le voyage en Italie. Donc voilà. Et puis en plus, c'est ça paraît évident que Van Dalen a fait le voyage en Italie parce qu'il est pétri des influences du Tintoret, de Véronèse, que l'on retrouve dans ses tableaux.
Oui, toute cette mythologie de figures héroïques et de paysages idylliques, ça c'est merveilleux, hein, tout ce qu'on peut voir. Vraiment, on peut inciter les auditrices et auditeurs de Campus à aller visiter cette exposition, à les réaliser, c'est remarquable. D'ailleurs, oui, on peut le dire. Mais quand vous parliez justement de ces 3 années d'études, de recherche, il faut savoir que vous avez fait appel à des botanistes, à des architectes pour vérifier des tas d'éléments dans tout ce travail scientifique qui a été fait.
Oui, vous avez raison, parce que nous ne sommes que historiens de l'art, et en effet, on a demandé par exemple à un spécialiste de botanique pour essayer d'identifier ces 89 espèces végétales, que ce soit des fleurs ou des plantes, qui figurent dans les tableaux de Bruegel. Cette personne qui s'appelle Patrice Blary était complètement étonnée, épatée par justement la rigueur et le réalisme de ces représentations. Hein.
Bien. Eh bien, écoutez Cécile, avant de terminer cet entretien sur l'exposition Bruegel Van Dalen, je vous propose une nouvelle page musicale.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Lafont, la directrice du musée de Flandre de Cassel, et nous évoquons cette magnifique exposition Bruegel et Van Dalen qui aura lieu de mai à fin septembre 2025. Alors, Est-ce qu'on pourrait s'attarder sur deux tableaux, à la fois peut-être un tableau de Hendrik van Balen et un tableau de Jan Brueghel? Alors, j'aimerais qu'on parle en particulier de ce tableau intitulé « Suzanne et les vieillards ». Et là, je crois que dans ce tableau, on va voir toute la délicatesse de van Balen. Hein ? Donc, il y a effectivement... Il a été d'ailleurs, van Balen, considéré comme un peintre qui dessinait absolument bien la femme.
Oui, c'est vrai. Donc, il faut imaginer un petit format, hein, c'est un petit tableau avec trois figures très délicates. Donc, Suzanne qui est presque entièrement nue, recouverte juste par un petit drapé, un drapé bleu, et puis qui est entourée par deux vieillards. Alors, la scène biblique est absolument dramatique, parce que vous le savez sans doute, mais Suzanne, c'est cette jeune fille très belle qui était mariée à un riche marchand de Babylone. Et d'ailleurs, on reconnaît la ville de Babylone à l'arrière-plan du tableau, parce qu'on a un fond bleuté avec un paysage urbain qui représente la ville de Babylone. Et cette jeune femme était en train de se baigner dans un jardin quand elle a été importunée par deux vieillards
qui lui ont fait quand même des avances.
Qui lui font des avances.
Voilà,
c'est ça. Suzanne, donc elle est importunée par ces deux vieillards qui vont lui faire des avances, et puis elle va refuser leurs avances, évidemment. Les vieillards vont se venger en colportant des ignominies sur elle, en disant notamment qu'elle a fait un adultère avec un jeune homme, voilà, c'est ça, elle sera condamnée à mort, et heureusement le prophète Daniel viendra la sauver et rétablir la vérité en expliquant que ce sont finalement les vieillards qui lui ont fait des avances, et au final la morale sera sauve puisque les vieillards seront condamnés à la lapidation. Et donc cette histoire qui est quand même dramatique est dépeinte sous les pinceaux de van Balen avec beaucoup de grâce et de raffinement. Et finalement, on a l'impression, quand on regarde l'œuvre de loin, que ce sont des hommes qui sont en train de discuter avec une jeune femme. Elle a l'air un petit peu effrayée, mais franchement, on est très très loin de la Suzanne et les vieillards de Jordaens ou de Rubens qui sont réalisés à la même époque, où là on est en pleine emphase baroque avec une Suzanne qui se débat, etc. Là ici c'est pas du tout ça, on est face à une Suzanne qui discute tranquillement avec deux vieillards, et vous avez raison de le souligner. Hendrik van Balen, il a un vrai talent pour représenter l'anatomie féminine, les courbes...
Le nu féminin.
Voilà, c'est ça. Mais là encore, il a un contre-courant de Rubens, parce que chez Rubens, il aime les plis, c'est plein de chair, de volupté, avec des poitrines imposantes, etc. Chez Hendrik van Balen, c'est beaucoup plus gracile. Les poitrines sont très menues, il n'y a pas beaucoup de plis. Enfin, c'est beaucoup des physionomies beaucoup plus graciles. Et donc, très très beau tableau qui vient d'une collection privée espagnole d'ailleurs, et qui n'a jamais été montré et qui a été trouvé par Yael Sanz-Salazar.
Très bien, c'est une belle pépite. Alors, vous vouliez parler aussi de l'enfer de Brueghel.
Ça, c'est un autre tableau qui nous vient d'une collection privée américaine cette fois-ci. Tableau magnifique, époustouflant. Moi, je suis vraiment époustouflée à chaque fois que je le regarde, ce tableau, parce que tout petit format, encore, on est sur une huile sur cuivre. Alors déjà, la première chose, c'est que cet enfer, il appartient à une série de trois autres huiles sur cuivre du même format qui sont tous signées, datées Brueghel 1601. Donc ça, c'est un petit miracle qu'on a pu réaliser grâce à l'exposition. On a réuni pour la première fois depuis très longtemps ces quatre tableaux qui ont probablement tous été peints pour le même commanditaire, un cardinal de Rome qui s'appelait Benedetto Giustiniani. Donc ça, c'est la première chose. C'est incroyable d'avoir réuni quatre tableaux, un qui vient de Zurich, en Suisse, deux qui viennent de collections privées différentes, hein, anglaises, et un quatrième qui est aux États-Unis. De les réunir pour la première fois comme ça dans une expo, c'est quand même vraiment gratifiant.
Donc allons au musée de Flandre à Cassel.
C'est ça, bah, il faut venir les voir parce que ces tableaux, ils sont vraiment extraordinaires. Ouais.
Alors, on va terminer peut-être par ce chapitre qui montre la continuité à la fois qui a toujours existé chez les Bruegel. Bruegel et Van Balen, père et fils. Ça veut dire que les deux fils de l'un et de l'autre ont continué un peu le fonctionnement d'un atelier qui avait été établi par les pères.
Oui, c'est ça. C'est vrai que la conclusion de cette exposition, c'est une petite salle où on présente en effet la réalité de qu'est-ce qui se passe à la mort prématuré de Jan Brueghel l'Ancien. En fait, il décède à la suite d'une épidémie de choléra en 1625, Jan Brueghel, et il laisse à son fils, Jan Brueghel le Jeune, un important atelier. Et Jan Brueghel le Jeune va poursuivre la collaboration avec Hendrik van Balen. Et Hendrik van Balen aura lui aussi un fils qu'il va appeler, je vous le donne en mille, Jan. Jan van Balen. Et Jan van Balen va lui aussi être peintre et continuera à travailler. Mais alors, ça, c'est intéressant parce que Jan van Balen, il va pas vraiment reproduire à la différence de ce qu'a fait Jan Brueghel le Jeune, qui a fait reproduit dans la continuité les œuvres de son père.
Oui, qu'on a d'ailleurs dit qu'il était un imitateur maladroit.
Oh. Alors non, ça, on a dit ça pour Jan van Balen, alors qu'en fait, Jan van Balen, oui, non, Jan Brueghel le Jeune, c'est quand même de très bonne qualité, et il va reprendre les modèles de son père, avec un peu moins de réussite, parce que on n'est pas, enfin, voilà, il n'a pas le même génie que Jan Brueghel l'Ancien, mais ça sera quand même de très bonne qualité, et Jan van Balen, lui, par contre, étant donné que finalement le père Hendrik a beaucoup moins intéressé les historiens de l'art, on a encore moins étudié son fils, Jan van Balen, et du coup on lui a d'office attribué les mauvais Hendrik van Balen. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a pas vraiment étudié. Et donc là, l'exposition, elle permet un historien de l'art, Bert Schreppertz, qui a travaillé sur Jan van Balen et qui a identifié 32 tableaux, donc qui sont dans le catalogue de l'exposition, hein, sous la forme d'un catalogue raisonné, qui sont attribués à Jan van Balen et dont l'exposition termine en montrant 32. Donc il y a deux tableaux de Jan van Balen où l'on peut voir que c'est vraiment un artiste de très grande qualité.
Eh bien, la vérité est rétablie.
Voilà.
Alors, encore un grand merci, Cécile. Alors pour conclure, bon, il y a un site bien sûr sur la toile, comme on dit, hein, qui va donner des tas d'informations sur ce qui se passe au musée de Flandre. Mais là, est-ce que vous auriez un certain nombre d'activités peut-être à signaler, qui ont lieu pendant toute cette exposition ou en dehors,
oui,
à Cassel?
On va en effet proposer un certain nombre d'activités pendant les vacances d'été. On va s'intéresser plutôt aux enfants. Donc on va proposer des stages pour les 6-12 ans. On a également un cycle de conférences qui a débuté la semaine dernière à l'Université catholique de Lille, mais qui va se poursuivre au Palais des Beaux-Arts de Lille au mois de juin. Je vais donner une conférence avec elle, Sainte Salazar. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qu'on a tissé avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, vous savez, qui lui aussi a une exposition.
Parlons de la Fiesta 3000.
Voilà, c'est ça. Donc l'exposition Brueghel et Van Balen a aussi été labellisée Fiesta Lille 3000. Et donc nous avons un partenariat aussi de tarifs avec le Palais des Beaux-Arts, donc sur présentation d'un billet tarif plein du Palais des Beaux-Arts de Lille, vous avez demi-tarif au musée de Flandre et vice-versa. Donc c'est intéressant pendant toute la durée de l'exposition.
Bien, écoutez, merci. On dit au revoir et à la prochaine fois.
Merci beaucoup.
Merci.
À la prochaine fois. Oui.
Merci encore à Nadia de nous avoir assisté sur la partie technique. Et puis, bonne réussite pour cette exposition.
Merci beaucoup, Marc.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
quand sombre l'orage, dans un ciel de mai, quand fuit le vitrage, sous un ciel de juin, quand éclate l'âge d'un ciel de juillet, quand hurle l'orage qui bouscule l'eau, quand valse la nage d'un mois de septembre, quand pleurent les crémages des fumées d'octobre, quand fondent les nuages de Toussaint novembre, quand coule la rage de neige en décembre, quand bavent les sages au fil de janvier, quand vient l'avantage du court février, quand court le sauvage du bien sûr 10 mars, quand vient l'élevage des poissons d'avril, quand sombre l'orage dans un ciel de mai, l'année recommage et l'infinité.
Pour salami, un chien à moitié sourd et un vieux lapin nain. Les enfants se moquaient tous de lui quand il s'approchait d'eux pour leur donner la main. Le petit croit toujours qu'on se fie à ce que disent les grands, qu'il y a une justice, mais les enfants se ruaient tous sur lui. Jetait son petit Suisse. C'est déjà pas facile d'être né différent quand on est devenu grand. La vie n'est pas docile. Et même chez les enfants, tout le monde n'est pas tout blanc. Le petit ne s'intéressait pas à tout ce que les adultes racontent aux enfants. Son papa était beaucoup plus fort que tous ces hommes qui en voulaient à ceux qui n'étaient pas nés de bonne famille ou dans le bon pays. Toi, petit, tu n'imagines pas le monde autrement que tu le vois dans tes rêves, sans personne qui te dicte tes pas, sans c'est toujours les mêmes qui te disent marche ou crève. Celle qui apaise ton chagrin. Je te veux, mais si tu veux aussi mon chien à moitié sourd et mon vieux lapin nain. Je te veux, mais si tu veux aussi mon chien à moitié sourd et mon vieux lapin nain.
Les gens qui traînent la misère sont doux comme de vrais agneaux. Ils sont parqués sur cette terre et menés comme des troupeaux. Et tout ça chante et tout ça danse pour se donner de l'espérance. Pour se donner de l'espérance. Pourtant ces gens à pâle mine ont bon courage et bonnes dents, grand appétit, grande poitrine, et rien à se mettre dedans. Et tout ça jeûne et tout ça danse pour se venger de l'abstinence. Pour se venger de l'abstinence. Pourtant ces pauvres traînent guêtres sont nombreux comme des fourmis. Ils pourraient bien être les maîtres, mais ce sont eux les plus soumis. Et tout ça court et tout ça danse pour un beau jour sauver la France. Pour un beau jour sauver la France. Ils n'ont même pas une pierre, pas un centime à protéger. Ils n'ont pour eux que leur misère et leurs deux yeux pour en pleurer. Et tout ça trime et tout ça danse pour s'engourdir dans l'indolence. Pour s'engourdir dans l'indolence. Du grand matin à la nuit noire, il travaille des 40 ans. À l'hôpital finit l'histoire, et c'est au tour de leurs enfants. Et tout ça souffre et tout ça danse en attendant la providence. En attendant la providence. En avant d'eux, oh, vous qu'on aime, cher un canon et sac à vin, va du pied ou bête de somme, traîne misère et meurt de faim. En avant d'eux et que tout danse pour équilibrer la balance. Pour équilibrer la balance.
Non mais Diméo, qu'est-ce que c'est que cette radio? Eh bien, c'est Radio Campus 106,6 www.campuslille.com.
Seul livre, méfie-toi, car qui ne sait lire entre les lignes ne lit pas. Celui qui récite sa prière ne prie pas. Professeur dont la langue s'affaire cherche les mots. De celle qui trop brille, méfie-toi, car le poisson brillant sous le givre
sans rien dire. Moi je n'aurai qu'un mot, je n'aurai qu'un mot, je n'aurai qu'un mot. Chapeau.
Parce qu'on n'est pas grand-chose, on n'est pas réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait un peu perdu comme des oiseaux.
Pas une connerie à mettre là, à cet endroit-là.
Ah bah non, là moi j'ai plus d'idées. Ah
bah honnêtement, moi non plus.
Bon bah on enchaîne alors.
Chérie, coupe les poireaux, mets un coup sur les carreaux. Si ça fait pas trop, tu peux passer un coup d'aspiro. J'ai lancé une lessive, n'oublie pas de l'étendre. Et pense au sirop d'olive et au suppôt de cassandre. Passe prendre les enfants à l'école et puis passe au pressing. Si t'as le temps, y'a du repassage. Tu fais à dîner ce soir, j'aurais pas le temps, mais fais un truc léger, j'aurais peut-être pas faim en rentrant. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait 30 ans, je me suis habitué. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait 30 ans que je suis un homme au foyer. Ah oui, pas chez le dentiste, rendez-vous 14h. N'oublie pas t'enchaîne avec l'orthophoniste à 15h. Puis Olive à tennis, faut être en piste à 16h. Tu peux passer à la danse avant de déposer sa sœur. Comme tu récupères les gosses seulement à 18h. Je me suis dit que tu aurais le temps d'aller nous chercher du beurre et de passer au marché pour acheter un chou-fleur. Ma mère dîne à la maison, tu feras des légumes vapeur.
Tu sais, tu nous fais une petite julienne de légumes avec les légumes finement coupés. Tu sais, pas trop cuit, pas trop pas cuit non plus. Parce que tu sais, après, moi je les digère pas bien quoi.
Il faut vidanger la voiture et tondre le jardin. Et puis remettre un peu de peinture dans la chambre des gamins. Sinon, quand t'auras le temps, tu montres à l'étagère que tu me promets depuis 10 ans, mais que t'as jamais eu le temps de faire.
Arrose le potager et les plantes de la maison.
N'oublie pas, donne à manger aux chats et aux poissons.
J'ai deux restes à 5 minutes,
je te note 2-3 bricoles.
Et enfile un calbut,
tu vas encore être en retard à l'école. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait 30 ans, je me suis habitué. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait 30 ans que je suis un homme au foyer. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait 30 ans, je me suis habitué. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré? Maintenant ça fait que je suis un homme au foyer.
campus, il est 14h.
Ah, moi, quand je me dis que je suis large pour faire